Vous écoutez Lille 1 Info, le magazine consacré à l'Université Lille 1, chaque mercredi entre 17h30 et 18h sur Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com. Nous allons parler maintenant d'insertion, de formation, mais aussi d'insertion à la vie active, on va dire, d'une manière générale, et aussi d'un organisme qui est chargé de faire des études concernant cette insertion, qui s'appelle l'OFIP, l'Observatoire des formations et de l'insertion. Nous avons le plaisir d'accueillir Martine Cassette, qui est directrice de l'OFIP. Bonjour Martine Cassette.
Bonjour.
Donc, un organisme qui est dédié à l'observation des formations et de l'insertion et qui existe depuis 20 ans.
Oui, tout à fait. C'est le plus ancien en France au niveau des universités. C'est un observatoire qui a été créé à Lille 1 en 1990 par du personnel qui était au SEIU à l'époque et qui justement se posait des questions sur l'orientation des étudiants, leur devenir, leur insertion professionnelle. Et l'université de Lille 1 s'est engagée dans cette démarche à partir de 1990 sans faillir jusqu'à aujourd'hui puisque le service s'est étoffé petit à petit.
Voilà, donc Lille 1 précurseur, on va dire.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui a fait que ce type de structure est devenu incontournable ?
Je pense qu'il y a plusieurs aspects. D'abord, les étudiants ont besoin d'avoir de l'information sur les diplômes dans lesquels ils vont candidater, sur ce que deviennent les étudiants à l'issue de ces diplômes. Mais on voit bien aussi ces dernières années, et je dirais à la limite depuis 2004-2005, que de plus en plus d'établissements ont besoin d'organismes pour assurer des indicateurs de pilotage. Alors, c'est pas un très joli mot, ça peut être très rébarbatif, mais en même temps, ça fait partie du dialogue obligatoire entre l'établissement et le ministère.
Effectivement, ce pilotage et ces indicateurs sont précieux pour le ministère, bien sûr, puisque l'évaluation est de plus que jamais au goût du jour.
Bien sûr.
Efficacité, rentabilité, enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
Parallèlement, les étudiants, eux aussi, ont besoin de repères, et notamment ceux qui veulent entrer dans une université.
Tout à fait. Alors, c'est en cela qu'un observatoire un petit peu ancien est intéressant parce que ce qu'on observe dans les établissements qui ont créé des structures un peu plus récemment, c'est-à-dire depuis 4-5 ans, elles l'ont fait justement face aux besoins d'indicateurs de pilotage et elles ont plutôt créé des structures statistiques. Alors que les observatoires un peu anciens des années 90 avaient vraiment comme premier objectif l'information sur l'orientation, sur le devenir des étudiants et sur l'insertion professionnelle. Donc, en cela, on a effectivement la chance à l'Île d'avoir une grande ancienneté sur ces enquêtes, d'avoir aussi justement des informations statistiques mais aussi qualitatives sur du long terme, ce qui permet justement de mieux analyser chaque année ce que deviennent ces étudiants.
Alors, c'est vrai que d'une manière générale, au niveau international, les universités sont classées, pas forcément de la volonté des universités, mais c'est un fait. On peut parler par exemple du classement de Shanghai ou d'autres. Ces classements, notamment celui de Shanghai, met en avant plutôt ce qui est du domaine de la recherche.
Oui, tout à fait.
Par contre, au niveau de la qualité des études, on va dire jusqu'au master, là, il y a beaucoup moins de choses crédibles sur, j'allais dire, le marché.
Oui, c'est vrai que jusqu'à présent, les classements s'intéressent davantage à tout ce qui est la recherche. Alors, on pourrait dire aussi, mais ça a fait beaucoup de polémiques depuis plusieurs semaines, que pour la première fois, il y a eu une sorte de classement fait par le ministère de l'Éducation nationale sur les masters des universités. Beaucoup de polémiques parce que, justement, c'était des enquêtes à la fois statistiques et qualitatives et qu'on les a réduites à un seul indicateur qui est le taux d'insertion professionnelle. Or, l'insertion, c'est important, mais la qualité de l'insertion, c'est encore plus important. Avoir un emploi quand on a fait un bac plus 5, bien évidemment, c'est ce qu'on espère, mais on veut aussi que cet emploi corresponde à un niveau bac plus 5 et à un niveau qui correspond au contenu de la formation qu'on a suivi. Donc, on ne peut pas réduire la qualité de l'insertion professionnelle au taux d'insertion.
Voilà, donc là on est sur des études qualitatives plus que quantitatives où on va sortir des chiffres, ceux qui ont trouvé un job dans un restaurant du coin.
Alors la qualité de l'insertion professionnelle, c'est plusieurs choses. C'est à la fois le fait d'avoir un emploi stable, rapidement, c'est le fait d'avoir un emploi avec un statut qui correspond au niveau d'études. Par exemple, dans les masters professionnels, on va regarder la part de cadre et non pas la part d'employé ou de profession intermédiaire. Et puis, on peut rajouter une variable, elle n'est pas la seule, mais elle peut être importante, qui est le salaire aussi que va toucher le diplômé au bout de quelques années. Ceci dit, il y a aussi d'autres aspects encore plus qualitatifs qui sont les intitulés d'emploi. Est-ce qu'ils correspondent véritablement à la formation ? La satisfaction aussi de l'emploi pour le diplômé quelques années après. Est-ce qu'il se sent bien dans ce métier par rapport à ce qu'il espérait ? Donc on voit bien que ça ne peut pas se réduire à un seul chiffre statistique. Et les observatoires un peu anciens, justement, ont pris l'habitude depuis maintenant 15 à 20 ans de ne pas simplement fournir des statistiques, mais de fournir ce qu'on appelle des répertoires de métiers ou des répertoires d'emploi, c'est-à-dire que chaque formation est véritablement décrite avec l'intitulé précis de chacun des diplômés.
Alors l'OFIP s'intéresse essentiellement aux étudiants qui font leur première formation, on va dire, pas forcément sur la formation tout au long de la vie, qui est aussi une des grandes caractéristiques de l'Université Lille. On va peut-être d'ailleurs préciser que l'université vient de signer une convention avec l'Agence pour l'emploi et l'État, donc.
Tout à fait.
Et donc, en quoi cette convention est symbolique, j'allais dire, d'objectifs nouveaux pour l'Université Lille ?
Je pense que dans la logique de l'ILA, qui est justement de porter attention à l'ensemble de la formation, y compris tout au long de la vie et avec un gros service de formation continue, le fait de chercher des partenariats avec Pôle emploi, c'est aussi une implication grande d'avoir ce lien entre d'un côté un public qui est en recherche d'autres choses ou de retour en formation, et de l'autre côté un service comme le Sud-Est et l'Université de l'ILA qui est prête à monter beaucoup de formations et qui a déjà beaucoup de formations qui sont accessible en formation continue. Alors c'est vrai, vous l'avez dit, nous au niveau de l'Observatoire, on s'intéresse un petit peu moins aux diplômés de formation continue, non pas parce qu'ils ne nous intéressent pas, mais parce que quand on fait nos enquêtes d'insertion, on ne peut pas les additionner avec les formations initiales. Leur avenir après un diplôme à l'I1, ce n'est pas une insertion, c'est une réinsertion ou c'est une évolution de poste. Donc on est amené parfois à faire des enquêtes sur eux, mais spécifiquement sur eux et non pas en les mélangeant avec la formation initiale.
Est-ce que les chiffres fournis par l'OFIP, non seulement au ministère, mais peut-être aux services, hein, au personnel, aux enseignants, aux chercheurs, est-ce que ces chiffres donc révèlent que, par exemple, l'accompagnement qui est fait des étudiants depuis quelques années de façon plus prononcée, notamment les étudiants qui sont parfois réorientés en cours d'études, commence à payer ?
Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord le fait que, par exemple, dans les enquêtes d'insertion professionnelle, on voit bien que nos étudiants trouvent un premier emploi assez rapidement, je dirais même très rapidement, puisque les masters, c'est moins de 2 mois. Et ça, c'est essentiellement par la qualité des stages et l'encadrement des stages, parce qu'on voit bien que beaucoup plus comme la moyenne en France, ils ont leur premier emploi à l'issue du stage. L'ordre de grandeur, c'est entre un tiers et 40%. C'est énorme dans une promotion. On voit aussi, quand on fait des enquêtes non plus sur l'insertion professionnelle, mais sur le suivi, par exemple, d'une cohorte d'étudiants entrés en première année, on voit aussi comment ils s'orientent ou se réorientent. On entend régulièrement dans la presse le 30% d'étudiants à journée en échec au bout d'un an à l'université, en première année de licence. Alors, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a 30% de sortants et que ces sortants sont à journée. C'est pas forcément un échec au sens pur et dur, dans la mesure où, quand on les suit les années qui suivent, eh bien, ils sont bien souvent, l'année d'après, dans le diplôme qu'ils auraient souhaité intégrer lors de l'année de terminale. Et quand on les suit très longtemps, puisque justement on a une opération tout à fait particulière à l'ILA, où on suit depuis maintenant septembre 2004 les premiers étudiants qui sont rentrés dans le système LMD à l'ILA, donc licence, master, doctorat. Donc on les suit maintenant depuis 6 ans. On sait très exactement ce qu'ils font et où ils sont depuis 6 ans, que ce soit à l'ILA ou en dehors de l'ILA. Or on voit 6 ans après qu'il y a encore la moitié de la population en études et la moitié qui a atteint la vie active, tout simplement parce que ceux qui ont fait un parcours sans faute, eh bien, au bout de 5 ans, sont entrés dans la vie active et que ceux qui avaient juste eu un petit problème de réorientation sont entrés aussi dans la vie active. Et cette cohorte, elle est très intéressante parce qu'on va encore, d'abord parce qu'elle nous donne ceux qui sont encore à l'ILA et ceux qui sont ailleurs, parce qu'elle nous permet de voir la richesse et les multiplicités de parcours qu'ils ont pu utiliser, et puis parce que pour la première fois, on sera capable de dire 7 ans après, puisqu'on va terminer ça en mars 2011, ce que devient réellement toute une cohorte de 1525 bacheliers 2004. C'est une opération qui, en tant que telle, n'avait jamais été réalisée pour l'instant dans les universités.
Alors Martine Cassette, ces chiffres, bien sûr, ils sont plutôt destinés à ceux qui ont réussi leurs études. Néanmoins, ceux qui n'ont pas forcément réussi, il n'est pas dit qu'ils n'aient pas tiré dans leur parcours et dans leur présence dans l'université, non seulement des satisfactions, mais aussi des enrichissements personnels. C'est un peu aussi une expérience de vie très importante et d'ailleurs très intéressante qui a donné lieu à une exposition qu'on peut voir.
Tout à fait, c'est vrai que l'exposition qui a lieu actuellement à l'Espace Culture montre des étudiants qui sont arrivés en première année de licence et qui ont été interrogés sur ce vécu. Alors c'est vrai que nous aussi au niveau de l'OFIP, on a parlé beaucoup d'insertion professionnelle, on a parlé de suivi de parcours, mais on fait aussi des évaluations, alors évaluation d'enseignement, évaluation de conditions de vie d'étudiants, et régulièrement on leur pose aussi des questions sur ce vécu justement, à la fois à l'arrivée en première année, mais par exemple quand on interroge des étudiants qui sont sortis de l'université et notamment sortis à journée, on pose aussi des questions sur ce qu'a apporté cette année d'études en première année, à la fois d'aspects positifs, d'aspects négatifs. Donc on est aussi amené à les interroger là-dessus.
Alors, certains nostalgiques disent « Oui, avant il y avait le service militaire ». Est-ce qu'on peut dire que maintenant il y a l'université qui est aussi une façon de faire que les jeunes s'engagent non seulement dans une société, mais aussi dans une vie sociale ?
C'est vrai qu'ils ont la possibilité de participer à des associations, d'avoir une vie commune ou de collectivité, puisque en dehors de l'aspect associatif, il y a quand même beaucoup de formations où vous avez des projets collectifs qui les entraînent à travailler ensemble, ce qui n'est pas forcément facile. Hein. C'est souvent plus facile de travailler dans son coin quand on sait se prendre en charge. Mais gérer un projet de bout en bout en groupe, c'est une bonne façon aussi de les aider à s'insérer sur le plan professionnel, mais c'est aussi une façon de les aider à devenir citoyens et à prendre des responsabilités.
Donc c'est vrai qu'il n'y a pas comme formule que le service civique.
Non, civil, il y a l'université.
Il y a l'université qui est aussi un moment de formation, voire d'initiation au monde.
Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que l'étudiant qui arrive en première année, il a connu surtout le lycée avec des horaires stricts, avec une présence obligatoire. Alors bien sûr, l'université, c'est la liberté, mais ils ne vont pas forcément tous en profiter de façon négative en oubliant qu'il y a des cours. Ils peuvent simplement avoir des choix qui sont leurs choix personnels, non pas simplement dictés par une organisation très stricte.
Alors Martine Cassette, 20 ans, j'allais dire que ça se fête. C'est vrai que ça va se fêter aussi chez vous ?
Oh, je ne sais pas si ça va se fêter, mais en tout cas, je pense que c'est important pour l'équipe qui est à l'OFIP de savoir que l'établissement a eu justement cet engagement de long terme, parce qu'il y a des universités ou des régions où les observatoires ont été aussi créés dans les années 90 et ont disparu brutalement il y a 5 ou 10 ans. Je pense que le fait qu'il y ait pas mal d'opérations qui montrent l'intérêt de l'OFIP, qui utilisent les résultats de l'OFIP, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait satisfaisant pour l'ensemble de l'équipe.
Qu'est-ce qui a beaucoup changé dans votre stratégie, dans votre approche, derrière des chiffres ?
Alors, je pense qu'il y a à la fois les sujets d'études et puis les méthodes qui ont un peu changé. Les sujets d'études parce que, comme je vous le disais à l'origine, c'était l'insertion professionnelle et les suivis de parcours de formation, d'où le nom OFIP, Observatoire des formations et de l'insertion professionnelle. Très rapidement, se sont rajoutés les aspects statistiques de tableau de bord des étudiants. Et puis, de façon plus récente, mais quand je dis plus récente, c'est quand même 1998, c'est l'évaluation des enseignements dans les formations et quand on a un petit peu de temps, certaines années, des études sur les conditions de vie des étudiants. Donc ça, c'est sur les sujets d'études. Maintenant, sur les méthodes de travail, à l'époque, les questionnaires, les enquêtes, c'était papier. On est de plus en plus avec des méthodes qui sont à la fois le mail, un site informatisé ou le téléphone. Et en fonction des enquêtes, on va mixer effectivement ces différentes approches parce que le but, si on veut être crédible et si on veut apporter véritablement des informations riches et avéré, c'est d'avoir un taux de retour très élevé. Or, les taux de retour à l'OFIP, on a la chance d'avoir la plupart du temps plus de 85% de taux de retour. Et dans les masters, ça frise même les 90 ou 94%. Mais c'est absolument indispensable si on veut que les répertoires d'emploi soient significatifs des diplômés, qu'on puisse réellement dire aux étudiants, voilà, vous faites tel master, voilà le type d'emploi précis que vous aurez. Si on n'a que 30% de taux de retour, on risque d'avoir que les meilleurs en termes d'insertion, et donc ce ne sera pas significatif.
Quels sont les chiffres dont l'université serait les plus fiers et ceux aussi qui révèlent une certaine spécificité de notre université, Lila?
Alors, en termes de spécificité, je l'ai cité tout à l'heure, c'est la part des masters qui accèdent au premier emploi grâce au stage. Entre un tiers et 40%, c'est énorme. Quand on regarde des enquêtes de l'APEC, c'est à peu près 16 ou 18%. Donc, on en est fiers et en même temps, on se dit que c'est parce que les stages de master sont des vrais stages, suffisamment longs, suffisamment intéressants, suffisamment encadrés. Maintenant, au niveau des chiffres qui sont un peu la fierté de Lila, je pense que ce sont les chiffres que le président répète un peu partout dans ses discours, c'est l'insertion professionnelle des masters notamment, puisque quand on regarde ce qu'ils deviennent 2 ans après leur diplôme, on en a 92% en insertion. Mais je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas un chiffre suffisant, qu'il fallait regarder aussi la qualité de cette insertion. Eh bien, on a 80% d'emplois stables, c'est-à-dire des gens qui sont en CDI ou qui sont fonctionnaires. Et je préciserai quand même tout de suite que pour les Master Pro, c'est plutôt du CDI que des fonctionnaires, parce que 8 sur 10 est en entreprise et non pas dans la fonction publique. Et puis, autre variable de qualité, c'est la part de cadre, puisqu'effectivement, à Bac plus 5, on peut prétendre avoir un emploi avec un statut cadre. C'est actuellement 7 étudiants sur 10, donc 70%. Et à la limite, on sait en France que cet aspect cadre, c'est un statut, mais qu'à côté de ceux qui n'ont pas le statut, il y en a qui ont des fonctions de cadre. Et quand on interroge les 30% qui n'ont pas le statut de cadre, il y en a les 2/3 qui ont des fonctions de cadre, c'est-à-dire qu'ils encadrent du personnel, qu'ils gèrent un budget, qu'ils ont des responsabilités. Et puis la dernière variable, mais je la cite toujours en dernier, c'est le salaire, bien sûr. On est avec des salaires nets, je précise nets, donc vraiment ce que l'étudiant, le diplômé va toucher, de 1 950 € actuellement, 2 ans après le diplôme, ce qui est tout à fait, je veux dire, plus que correct.
Alors, on a vu là donc les côtés positifs. Est-ce qu'il y a encore des zones à corriger ou à améliorer? Est-ce que vous avez des détecteurs qui permettent de réorienter parfois des formations ou des cursus?
Alors, on peut toujours améliorer, bien évidemment. Si on reste sur les masters, on est capable, sans faire de classement, de dire qu'à certains endroits, il peut y avoir des contenus qui peuvent être modifiés, qui peuvent être peut-être plus professionnels. Bon. Mais je pense qu'actuellement, l'université, son gros souci, c'est plutôt l'orientation au niveau de la licence et les différents parcours de licence. On voit bien depuis plusieurs années qu'on a été amené à faire des parcours différenciés parce que l'étudiant lambda a peut-être beaucoup de difficultés à lui-même organiser son orientation au sein des licences, et notamment dans le LMD où tout est possible à la limite. Donc on voit bien depuis plusieurs années qu'on a mis en place des parcours aménagés pour les bacheliers un peu plus en difficulté à l'université comme les bacheliers technologiques, qu'au contraire on a géré une population un peu spécifique de bacheliers de très bon niveau qui avaient envie d'en faire plus avec des parcours renforcés, et on développe comme ça des parcours qui essayent de s'adapter à la population. C'est en ce sens que je dis, il y a toujours des choses qu'on peut essayer de mettre en place. De la même façon que ce matin, on discutait encore des problèmes de réorientation à la fin du premier semestre, puisque dans les systèmes actuels à l'université, le premier semestre est un peu un portail un peu générique dans un domaine disciplinaire et qu'ensuite l'étudiant va aborder un peu plus en précision la discipline. Or, l'étudiant qui est déjà en difficulté au semestre 1, il faut essayer de lui trouver des choses un peu plus adaptées par différentes voies. Il y en existe déjà, on pourrait envisager d'en créer d'autres dans l'avenir. Bien sûr, ça, les choix qui sont ce genre de création ne dépendent pas de l'OFIP, mais l'OFIP est intégré dans la mesure où à écouter les discussions de ce qui peut se mettre en place permet de mieux prévoir les études qu'il faudra adapter par derrière, puisqu'il y a un dialogue permanent entre l'action, l'étude et après la correction.
Alors, une catégorie de public bien présente dans l'université, ce sont les étudiants étrangers. Comment on arrive des retours, notamment d'étudiants qui sont rentrés dans leur pays ?
Alors là, c'est le gros problème, parce que justement, quand ils sont rentrés dans leur pays, on a beaucoup de difficultés à les recontacter. Il ne faut pas oublier que quand nous faisons nos enquêtes d'insertion professionnelle, c'est 2 ans après le diplôme, c'est-à-dire 3 ans après qu'ils se soient inscrits dans le master, et que les adresses qui existent dans les dossiers d'inscription sont forcément plus valables. Donc, sur les étudiants étrangers, on a toujours beaucoup plus de difficultés pour les retrouver. Donc, les taux de retour ne sont pas les mêmes, ça, il faut être très clair. Mais la grande difficulté après, c'est que c'est toujours très difficile de les comparer comparer en termes d'insertion avec les étudiants français, dans la mesure où vous ne pouvez pas comparer une activité, je ne sais pas moi, de cadre commercial en France avec quelqu'un qui serait au Mali, au Niger, en Tunisie. Donc on ne peut jamais véritablement les additionner et faire quelque chose de comparable. Ce qui fait qu'on est toujours dans le détail ou dans des choses tout à fait précises, mais difficiles à évaluer globalement.
Est-ce que vous avez, par exemple, des contacts possibles, leur adresse mail, par exemple, pour les interroger ?
Là aussi, c'est un grand problème technique, les mails, parce que, en principe, l'étudiant qui est à Lilin a une adresse électronique étudiant Lilin, sauf que 2 ans après, il ne l'a plus. Donc forcément, pour nous qui devons les interroger, ce serait idéal dans la mesure où c'est le moyen le moins coûteux en termes d'interrogation, mais c'est le moyen qui donne 0% de taux de retour à tous les coups 2 ans après la sortie. Alors on a essayé depuis plusieurs années de demander à ce que lors de l'inscription, on puisse avoir aussi un mail personnel dans le dossier de scolarité, en se disant que bien sûr, ils vont peut-être en changer, mais pas tous. Et donc c'est effectivement un moyen de retrouver aussi les étudiants de façon intéressante. Mais c'est très difficile par cette voie-là.
Mais au-delà, si ça se met en place, peut-être que vous auriez aussi des petits messages sympathiques à l'occasion.
Oui, bien sûr. On pourrait par exemple vous avertir quand on lance des opérations d'insertion professionnelle pour qu'ils répondent.
Voilà, s'il fallait, en guise de conclusion, bon, je ne vais pas dire prédéterminer l'avenir, mais donner quelques repères sur les prochaines années, et notamment en termes de vœux, par exemple, de ce qui est souhaité par vos services.
Alors là, moi, j'ai un vœu tout à fait important en ce moment, enfin, depuis plusieurs mois et années. Nous faisons beaucoup d'études. Elles sont dites intéressantes par à la fois l'université, le SFIO, les responsables de formation. La grosse difficulté dans une université de 18 000 étudiants, c'est de réussir à faire en sorte que ces étudiants s'approprient les résultats de ces études, parce que c'est pour eux que nous travaillons. Alors là encore, non pas forcément sur l'aspect purement statistique, mais les fameux répertoires d'emploi dont je vous parlais tout à l'heure, c'est vraiment un outil de travail qu'ils devraient s'approprier. Or, ces répertoires d'emploi, ils sont à la fois disponibles sous forme papier au bureau d'aide à l'insertion professionnelle dans le bâtiment SUP SFIO. Et puis, il faut savoir que le site de l'OFIP est absolument accessible de partout, que ce soit à l'interne à Lila ou de chez lui au niveau de l'étudiant. Donc, les répertoires d'emploi, c'est véritablement l'outil de base que devrait avoir un étudiant avant de choisir une formation.
Au-delà des étudiants de l'université, est-ce que le public, le grand public, voire les entreprises ont accès à vos dossiers et auxquels ?
Oui, alors là aussi, le site est ouvert à tout le monde. Moi, j'ai développé effectivement la participation à des sessions d'information, par exemple vis-à-vis des CIO et des profs principaux de lycée, de terminale, de première, etc. Vis-à-vis des entreprises, c'est toujours beaucoup plus compliqué parce qu'elles sont vraiment démultipliées. Mais régulièrement, la direction de l'université me demande de faire des présentations auprès des conseils, des instances de l'université. Et dans ces conseils, il y a effectivement des extérieurs, des branches professionnelles, des collectivités territoriales. Donc effectivement, c'est le moyen direct qu'on peut utiliser pour les prévenir. Ceci dit, quand il y a des opérations très particulières, je pense par exemple à une enquête qu'on a réalisée l'an dernier et qui était à nouveau une première en France, on a réinterrogé des masters 4 ans après, de façon à voir l'évolution de leur insertion professionnelle entre l'enquête à 2 ans et l'enquête à 4 ans, et pour voir justement si ça confirmait ses premières impressions. Eh bien, sur cette opération tout à fait particulière, le président a pris en charge de diffuser largement dans les milieux économiques et dans les milieux politiques, c'est les résultats d'enquête.
Alors, quand on interroge sur un moteur de recherche très connu, oui, plus célèbre, on lui demande OFIP, on trouve OFIP, Université de Lille, immédiatement.
Hein. J'espère.
Donc, c'est très facile à trouver.
Oui. Donc,
vous avez dit donc, des chiffres, etc., qui sont proposés. Est-ce que vous avez aussi un système d'interrogation où les gens peuvent vous envoyer aussi leurs sources ou des informations possibles ?
Non, il n'y a pas forcément d'aspect interactif, mis à part qu'il y a un mail qu'ils peuvent utiliser pour nous poser des questions. Et je ne dis pas qu'on en a tous les jours, mais ça arrive quand même régulièrement. Mais pour l'instant, le site n'est pas interactif à ce niveau-là.
D'accord. Voilà, bien, Martine Cassette, je rappelle que vous êtes directrice donc de l'OFIP, l'Observatoire des formations et de l'insertion, et que visiblement, tout se passe dans un monde qui évolue très positivement pour Lille.
Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est quelque chose qui est à la fois intéressant pour nous qui y travaillons, et puis pour Lille au niveau des résultats.
Mais je vous souhaite une bonne soirée.
Merci, vous aussi.
Et une bonne année.
Merci beaucoup. Thank you.
Dans quelques minutes, vous retrouverez le Villeneuve Mag présenté par Patricia. Excellente soirée à toutes et à tous à l'écoute de nos programmes Radio Campus 106.6 FM, www.campuslille.com. Sur ce site, vous retrouverez bien sûr toutes les émissions pendant 2 mois. Pendant 2 mois, vous pourrez réécouter donc chaque heure d'émission. Et bien sûr, dans ce menu, vous retrouverez Lille Info avec le site web qui lui est dédié pour toutes les archives concernant cette émission hebdomadaire sur Radio Campus en partenariat avec l'Université Lille. Excellente soirée à toutes et à tous.